Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Comment ça va aujourd'hui? Comment vendredi, alors tout va bien j'imagine, hein. Le vendredi c'est quand même un peu mieux que le lundi. Bon réveil à vous les amis, avec une jolie musique en fond, celle d'un V8 biturbo de 500 chevaux. Venez à bord de cette Ferrari 488 GTE.
Voilà, cette Ferrari, ce gros bolide qui sera piloté ce week-end lors des 24 heures du Mans par Sarah Bovy, Michel Gatting et Raël Frey. Les trois pilotes de la première écurie 100% féminine Iron Dames.
Elle a été fondée en 2018 par Deborah Mayer, pilote également et présidente de la commission des femmes dans le sport automobile.
Et elle lutte pour qu'il y ait plus de femmes dans le sport auto et pas seulement derrière un volant. Les femmes ingénieures, mécaniciennes également, Iron Dames ou Iron Dame sera sur la ligne de départ demain à 16h sur le circuit des 24 heures du Mans et Deborah Mayer sera notre invitée à 5h45 sur Europe 1. Dans l'actualité ce 10 juin, Julien.
Oui, il y avait encore une phrase. Retour en arrière sur l'un des épisodes les plus sombres de notre histoire contemporaine. Le 10 juin 1944, il y a 78 ans, les habitants du village d'Oradour-sur-Glane étaient massacrés, sans aucune raison, par la division, une division de la Waffen-SS.
C'est le pire massacre de civils perpétré en France par les nazis. 643 victimes au total.
Dont la maman et les deux sœurs de Robert et Braz, bientôt 97 ans aujourd'hui. Le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane, c'est le titre du livre qu'il sort en compagnie de sa petite fille Agathe Ebras, à qui il a transmis le flambeau, celui de faire vivre cette mémoire qu'il trouve tant de résonance, que ce soit à Boutcha, au Rwanda ou encore en passant par le Bataclan. Robert et Agathe Ebras, invités exceptionnels ce matin sur Europe 1, rendez-vous à 6h10 à 6h10. On écoutera ensuite votre partition, Omblin.
Avec ce matin, l'un des groupes électro-fondateurs de la French Touch. La partition de Phoenix à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme, soyez tous les bienvenus. Bon réveil à vous en ce vendredi 10 juin. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Ça y est, le beau temps est de retour.
Ça y est, bah je vous l'avais dit, on va sur un beau week-end. Alors, peut-être pas à ce point. On n'est peut-être pas sous les tropiques. Hein, c'est Fabrice, notre réalisateur, qui s'enflamme un petit peu.
Qui s'imagine à Honolulu. Ouais.
Mais voilà, c'est ça. Non, vraiment, c'est le retour du beau temps. On se dirige vers un week-end estival, avec tout de même le retour des orages dimanche. Mais ça, je vous en parle pas, parce que je veux pas vous gâcher le moral. Dans le sud, on a toujours du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 80 km/h aujourd'hui. Attention ce matin, à l'ouest, entre la Charente et la Vendée, on a pas mal de brouillard, donc soyez prudents sur les routes. Aujourd'hui, c'est au bord de la Manche que le ciel sera le plus couvert, avec ce matin des petites averses sur le littoral de la Manche, avec des nuages qui débordent jusqu'en région parisienne. Et cet après-midi, le soleil va encore gagner du terrain et le ciel va rester couvert sur les bords de Manche. 6 à Aurillac, 9 à Saint-Étienne, 12 à Bordeaux, 16 à Paris ce matin, ça grimpe, et 20 à Nice. Et cet après-midi, on aura 19 à Brest, 33 à Montpellier, 23 à Paris. Attention, pic de chaleur qui arrive dans le sud de la France.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. À tout à l'heure pour une nouvelle météo. Excellent réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h. Les extrêmes proposent d'ajouter de la crise à la crise. Emmanuel Macron, dans le Tarn hier, jette ses dernières forces dans la bataille des législatives. À deux jours du scrutin, le président sonne la mobilisation générale pour obtenir la majorité. Plus de son, plus d'images. Les vidéosurveillances du Stade de France, toutes supprimées. Une semaine après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions, la Fédération française de foot aurait-elle dû les conserver? On fait le point dans ce journal. Et puis, il est l'ultime témoin d'un massacre, celui d'Oradour-sur-Glane durant la Seconde Guerre mondiale, je vous en parlais dans le sommaire. Robert Ebras passe le flambeau à sa petite fille Agathe pour que l'histoire d'Oradour ne disparaisse pas avec lui.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 5h vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Dernier jour de campagne aujourd'hui avant le premier tour des législatives dimanche. Emmanuel Macron a choisi le Tarn hier officiellement pour parler sécurité au quotidien. Mais sur place, le président a surtout fait campagne pour son camp Jacques Seret. Il n'a pas hésité à tacler ses adversaires.
Oui, dans cette dernière ligne droite, Emmanuel Macron passe à l'offensive, ciblant sans le nommer Jean-Luc Mélenchon pour ses propos sur la police.
Il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.
Diabolisation du leader des Insoumis et de Marine Le Pen, le président vise les deux autres blocs qui lui font face.
Les extrêmes aujourd'hui proposent d'ajouter de la crise à la crise en revenant sur les grands choix historiques de notre nation.
Espérant aller chercher un vote utile en sa faveur de la part des électeurs de gauche et de droite.
Si l'élection du président de la République est cruciale, l'élection des députés est décisive. Et des équilibres qui se dessineront à l'Assemblée nationale dépendent aussi le destin de la France et des vies quotidiennes de chacun.
Un discours offensif en ces dernières heures de campagne, le chef de l'État sait que c'est maintenant que cela se joue.
Cohérence, compétence et confiance plutôt que posture, désinvolture et aventure, voilà le premier enjeu à mes yeux du 12 juin à venir.
Au risque de donner l'impression de paniquer au dernier moment, alors que les récents sondages indiquent une dynamique pour l'alliance de gauche.
Merci Jacques Serret, un sentiment de panique, c'est aussi ce que ressent Jean-Luc Mélenchon dans le camp de la majorité.
Deux jours avant la clôture de la campagne, Emmanuel Macron, dans un moment de fébrilité bien visible, s'implique dans la campagne. Pas seulement pour y émettre des idées qui lui sont chères, qu'il tient à cœur, mais pour dénoncer les autres, agresser, injurier, sur un ton qui est extrêmement pénible à supporter.
Jean-Luc Mélenchon au micro Europe 1 d'Alexis de la Fontaine.
Circuler, il n'y a rien à voir. Les vidéos des caméras de surveillance du Stade de France ont été purement et simplement supprimées. La polémique autour du fiasco de la finale de la Ligue des Champions est du coup relancée.
Oui, les images captées par un opérateur privé ont été automatiquement détruites au bout d'une semaine car elles n'ont pas été réquisitionnées par la justice malgré les différentes enquêtes ouvertes. C'est ce qu'a révélé la Fédération française de foot hier auditionnée par le Sénat sur les incidents. William Molinier, est-ce qu'il fallait les garder ces images?
Eh bien, la CNIL, l'autorité chargée de protéger les données personnelles, fixe aux opérateurs un délai maximal de conservation d'un mois. Mais rien ne les force à les supprimer avant ce délai. Autrement dit, pour le Stade de France, le nettoyage des disques durs était automatique. C'est ce qu'a rappelé Erwan Prévost, représentant de la Fédération française de football.
Les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites. Et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations.
Selon lui, c'était à la justice de venir récupérer ces images. De son côté, une source judiciaire s'étonne que la FFF ne les ait pas d'elle-même sauvegardées et mises à disposition si elles étaient si utiles. On n'a pas d'enquête pour des faits de violence commis dans le stade ou aux abords immédiats, poursuit cette source. Et quand bien même des supporters porteraient plainte dans les jours à venir, retrouver les auteurs sur des images et dans une foule en mouvement aurait été quasiment impossible. Reste que ce nouveau couac des images effacées du Stade de France renforce le sentiment des supporters de Liverpool que les autorités françaises font tout pour minimiser, voire effacer leurs responsabilités dans l'organisation de cette finale.
Merci William Molinier. Si les images de la FFF ont été détruites, la préfecture de police de Paris précise de son côté que celles en sa possession sont toujours à la disposition de la justice.
On en vient à l'affaire du refus d'obtempérer à Paris samedi dernier. Le conducteur a été mis en examen.
Notamment pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique ou encore récidive de refus d'obtempérer aggravé, toujours hospitalisé pour des blessures par balle au thorax. Le suspect âgé de 38 ans est sous le régime de la détention provisoire.
Il est passé aux aveux. Il, c'est le petit ami de l'adolescente retrouvée poignardée hier en Saône-et-Loire. Il reconnaît l'avoir tué.
Oui, ça s'est passé dans le petit village de Clessé hier matin. La découverte du corps d'une collégienne ensanglantée présentant de nombreuses plaies, un couteau encore planté dans le cou. Placé en garde à vue pour assassinat, son petit copain âgé de 14 ans a avoué. Il risque 20 ans de prison. Une information judiciaire est ouverte.
643 morts, des hommes, des femmes, des enfants, sans distinction, abattus, voire brûlés vifs dans une église.
L'horreur absolue, un drame de la Seconde Guerre mondiale perpétré par une division nazie. C'était il y a 78 ans, le 10 juin 1944, le massacre d'Oradour-sur-Glane. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Et bien aujourd'hui, un seul des survivants du massacre est encore en vie, Robert Hébras, à 96 ans, pour entretenir le devoir de mémoire et défendre l'histoire d'Oradour. C'est sa petite-fille, Agathe, 29 ans, qui reprend le flambeau. Le reportage de Johan Tritz.
En 59, 83.
La mémoire de Robert Hébras n'est peut-être plus infaillible, mais lorsqu'il se replonge dans ses souvenirs, une bière à la main, les émotions, elles, reviennent.
À chaque fois, c'est difficile pour moi.
À côté de lui, il y a Agathe, sa petite fille, c'est elle qui le corrige.
Ça lui arrive même de dire Quand on lui pose une question, posez-la à ma petite fille, elle répondra mieux que moi.
Plongée depuis toute petite dans cet héritage familial.
Moi, j'ai grandi à Oradour et donc je passe tous les jours devant les ruines, donc forcément, je pose des questions.
J'ai trois petits-enfants, j'ai senti que c'était Agathe qui était vraiment disposée à me succéder. C'est la seule qui m'écoutait, qui vraiment prenait part à la conversation et voulait savoir.
Aujourd'hui, elle souhaite faire perdurer l'histoire de son grand-père.
J'ai envie de défendre la mémoire d'Oradour en général, comme il a pu le faire, voilà, témoigner.
Si je lui passe le flambeau, c'est que je m'approche quand même de la fin de ma vie.
À bientôt 97 ans, Robert Ebras garde le sourire. Il sait qu'avec Agathe, le devoir de mémoire de ce 10 juin 1944 ne s'éteindra pas avec lui.
Johann Tritz, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, se rend par ailleurs aujourd'hui à Oradour-sur-Glane pour assister à la cérémonie commémorative du massacre.
Une cérémonie à laquelle assistera évidemment Robert Ebras, qui sera notre invité à 6h avec sa petite fille Agathe d'ailleurs, pour parler de leur livre coécrit avec Mélissa Boufigi, Le dernier témoin d'Oradour sur Glane chez HarperCollins.
5h07 sur Europe 1, venons-en à nos côtes. On les entend, les mouettes, les vagues, ça donne envie de se balader au bord de la mer en ce vendredi, je vous le rappelle, si certains avaient oublié, ce dont je doute, ce soir, c'est le week-end, en plus il va faire beau, Anissa nous le disait il y a quelques minutes, eh bien figurez-vous qu'on vient de gagner 3000 km de côte, la limite entre la terre et la mer vient d'être recalculée grâce à un nouvel outil ultra précis, son nom LIM-TM, Caroline Baudry.
Chaque crique, chaque contour de rocher est pris en compte dans ce nouveau détourage du littoral. Mètre par mètre, le tracé final fait 17 600 km, 3000 de plus que le précédent. Aucune conséquence sur la taille du domaine maritime de la France, précise Christian Bûcher, le directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Mais c'est une avancée dans la fine connaissance du bord de mer.
L'intérêt, c'est surtout peut-être d'un point de vue réglementaire administratif pour définir les zones de protection terre-mer, les zones de baignade, etc. C'est surtout, je crois, intéressant, me semble-t-il, par rapport aux parcs naturels marins qui vont être amenés à se développer pour définir très précisément les endroits où il convient de les mettre. Vous savez, c'est mieux connaître ce littoral qu'est le poumon, la pouponnière de la mer. Les poissons ne se reproduisent pas tant en pleine mer que sur le littoral. Donc c'est un gros travail qui mérite de se poursuivre, évidemment.
Dans les territoires français d'outre-mer notamment, les contours des innombrables atolls du Pacifique, par exemple, sont mesurés selon l'ancienne méthode. En métropole, le Finistère confirme sa place. Il est le département le plus maritime. 2263 km de côte tortueuse, un chiffre qui a doublé lors du nouveau calcul.
Caroline Baudry.
On passe au foot. Troisième match de Ligue des Nations pour les Bleus ce soir.
Autriche, France, les joueurs de Didier Deschamps doivent gagner après une défaite et un nul. Match à suivre évidemment sur Europe 1, en direct à partir de 20h.
Aux côtés de Jean-François Pérez et de Cyril de la Morinerie, nos deux envoyés spéciaux à Vienne. On termine avec de la littérature. Une idée de livre pour ce week-end à dévorer, ou à dévorer cet été sur la plage, hein, c'est selon. Ça s'appelle Le soldat Ulysse d'Antoine Billot aux éditions Gallimard.
Il vient de remporter hier soir la troisième édition du prix européen GMF, une édition qui met en avant les valeurs de solidarité et d'élan collectif. Nicolas Caro nous parle de ce roman plein de promesses.
L'histoire commence juste après la Première Guerre mondiale. Dans une gare, on retrouve un homme, un soldat manifestement, vu son uniforme. Il est crasseux, mal en point et complètement désorienté. On l'envoie d'abord chez les fous, au Kremlin Bicêtre, puis au Val-de-Grâce, où il est pris en charge par un médecin militaire, Oscar Miloche. L'homme est parfaitement amnésique, il n'a pas de nom, pas d'identité, alors le médecin le baptise Ulysse. Mais sans état civil, le soldat n'a pas le droit à une pension ni même à des soins. Maintenant, il faut donc l'aider à retrouver la mémoire et sa famille. Alors le docteur Miloche fait faire un joli portrait photo de son patient et le publie dans les journaux en espérant que quelqu'un morde à l'hameçon. Mais ce sont des milliers de lettres qui déferlent au Val-de-Grâce. On a reconnu qui est un mari, qui est un frère, un cousin, un fiancé. Des désespérés qui voudraient reconnaître leurs proches dans ce soldat inconnu. C'est un roman très romanesque, on veut savoir, mais c'est aussi une réflexion sur l'identité, qui on est quand on n'est personne.
Nicolas Caro.
Le soldat Ulysse d'Antoine Billot aux éditions Gallimard, lauréat donc de la troisième édition du prix européen GMF, et c'était le journal d'Alban Le Prince, merci à vous.
Il est 5h11, les courses de Thierry Léger à présent, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Ombline, il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 611 Gianca Somoli. À peine âgé de 3 ans et déjà titulaire de 4 victoires en seulement 5 tentatives, elle peut être considérée comme la meilleure pouliche de sa génération et pour sa première participation à une course de groupe, elle trouve ici une belle occasion d'affirmer sa suprématie D'autant plus qu'en revisionnant ces dernières courses, je peux vous assurer que ses limites actuelles sont encore inconnues. Alors notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1, dans la 6e course, le numéro 11, Gianca Somoli.
Le numéro 11, merci beaucoup Thierry Léger, et on vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. A tout de suite.
Ombline Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon réveil, excellent vendredi avec nous, place au pressing, et avec nous également Martin Lange.
Bonjour Ombline, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec vos journaux et cette menace en une du Figaro. Menace d'abstention record sur les élections législatives, titre Le Quotidien. En effet, selon un sondage à Odoxa, la participation s'annonce historiquement basse. Dimanche, seuls 46% des Français pourraient se rendre aux urnes. C'était 49% il y a 5 ans et c'était déjà un record. Ce qui rend ce scrutin plus incertain que prévu. Voilà ce que l'on peut lire en une de La Croix, pour qui ce premier tour est loin, très loin, d'être gagné d'avance pour le camp présidentiel. Un visage poupon en une du Parisien aujourd'hui en France, celui de Daniil, 19 ans, qui a passé, je cite, 46 jours dans les geôles de Poutine. Ce jeune soldat ukrainien blessé et amputé revient de l'enfer après avoir été menacé et humilié. Il a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers. Ombline, on commence avec vous. Quel article vous a tapé dans l'œil?
Alors, semaine spéciale Matou, hein, en ce qui me concerne dans le pressing. Après...
Il va falloir préciser quand même, voilà. Hein, parce que c'est un petit peu tendancieux ce que vous venez de dire.
Alors après vous avoir parlé des chats sauvages féroces, mon cher Julien.
Kerguelen.
Limite mutant, exactement, des îles Kerguelen.
J'ai l'esprit
mal
orienté.
On retrouve nos petites boules de poils qui ronronnent, vous donnent des petits coups de tête affectueux, qui se frottent à vos mollets, des chats tout mignons, mais qui se font la malle, voilà, c'est-à-dire dans le Parisien aujourd'hui en France. En France, 75% des animaux perdus sont des chats. On est hélas habitués de voir des affichettes collées le long des lampadaires avec souvent un message de SOS qui ne manque pas de nous émouvoir.
Il y en a partout où je vis, c'est
bien sûr. Griffouille, princesse, a disparu. Récompense si vous le retrouvez, message agrémenté d'une photo. L'an dernier, le nombre de chats vagabonds récupérés par la fourrière ou par les associations a bondi de 25% et a priori, ce ne sont pas des abandons, hein, mais bel et bien des chats fugueurs. Le moyen le plus sûr pour récupérer votre compagnon, c'est la puce électronique. Et jusqu'à dimanche, une campagne incite les propriétaires de chats à se rendre chez un vétérinaire pour déclarer leur animal. Il faut savoir qu'il est obligatoire de déclarer être en possession d'un chat ou d'une quinzaine dans la famille Pierce, afin qu'ils soient inscrits au fichier national. Ils sont tous inscrits au fichier national ?
Absolument. Bien. Et vous savez quoi ? J'ai fait la mise à jour de l'adresse pas plus tard qu'il y a une semaine. C'est très fastidieux.
D'ailleurs, sur le fichier national, il y a une page spéciale Pierce.
Ouais, il y a un onglet sur le site de l'ICAD. Ça s'appelle l'ICAD.
Son abonnement l'ICAD. Ah bah, très bien, allez-y. Vous pouvez donc être sanctionné si vous ne faites pas pucer. Si vous ne faites pas déclarer votre chat, l'amende peut aller jusqu'à 350 euros. Alors si en plus vous décidez de l'équiper d'une puce électronique, vous avez deux fois plus de chances de retrouver votre chat. Sachez que vous pouvez le faire dans une association de protection animale ou chez votre vétérinaire. La puce est insérée sur le côté gauche de l'encolure. La pose coûte 30 euros. Et si vous tombez sur un chat perdu dans la rue, eh bien sachez que la lecture de la puce chez un professionnel, elle, est gratuite. Bien sûr. Chaque année, 70 000 chats seraient déclarés perdu, c'est quand même beaucoup, et c'est à lire dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin. On n'est pas obligé de pucer le chat, c'est mieux pour le retrouver. En revanche, il faut le déclarer, ça c'est obligatoire depuis 10 ans.
Et si je puis me permettre, évitez les colliers, surtout si votre chat est libre et peut sortir, parce que le collier, chat peut s'accrocher et se pendre malencontreusement. Merci beaucoup.
C'est terrible ce que vous dites.
Non, mais c'est un petit conseil, voilà.
C'est vrai.
Il vaut mieux effectivement. La puce,
Le tatouage aussi.
Ou le tatouage dans l'oreille. Martin, à vous.
Oui, avec une nouvelle illustration de l'inflation toujours galopante et qui oblige les géants de l'agroalimentaire à s'adapter et même parfois à bidouiller. Alors, je vous emmène en Australie où une polémique enfle depuis quelques jours au point que même le Premier ministre s'en est mêlé, le Shoegate. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Shoegate ? Eh bien, c'est KFC, la chaîne de fast-food spécialisée dans le poulet, j'imagine que vous connaissez, qui a décidé de couper sa salade avec du chou car la laitue est devenue beaucoup trop chère. Alors, en Australie, l'inflation dépasse les 5% et la laitue est l'un des produits alimentaires les plus touchés à cause de récentes inondations et de la hausse mondiale du prix du carburant. Le prix de cette salade a augmenté de, tenez-vous bien, de 300% dans certaines villes.
Parce qu'elle pousse sous serre, j'imagine.
Et ben, faut croire, une laitue s'achetait encore il y a quelques semaines 2 dollars australiens, c'est l'équivalent d'un euro 30 peu près comme chez nous. Mais aujourd'hui, comptez 8 dollars, plus de 5 euros pour une seule tête de laitue iceberg. intenable pour KFC qui avait deux solutions. Alors, soit augmenter le prix de ses burgers, soit réduire sa consommation de laitue. La chaîne a tranché. Hein. Désormais, les clients devront se contenter d'une garniture mi-salade, mi-chou. Mais il faut croire qu'en Australie, les amateurs de burgers aiment surtout la salade. Cette décision a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. La polémique est devenue nationale. Et le Premier ministre Anthony Albanese a dû se mouiller, interrogé par une radio. Il a déploré avec une pointe d'ironie une décision folle, prémisse d'une crise nationale. Mon fils qui adore KFC va être dévasté, a-t-il expliqué. Plus sérieusement, il a demandé des explications à la chaîne de fast-food. Le chou, ce n'est pas la même chose que la laitue. C'est tout simplement pas correct. Je mettrai ça sur la liste du prochain Conseil des ministres. Pourtant, le chou, ça a quand même des vertus.
Ah. La soupe au chou, mon Blaise, ça parfume jusqu'au trognon. Ça fait du bien partout qu'elle passe dans les boyaux. Ça tient au corps. Ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux que je t'y dise, ça rend meilleur.
Voilà. Ça rend meilleur.
Voilà, le chou, ça pourrait peut-être rendre meilleur les Australiens. Vous aurez reconnu Louis de Funès dans la soupe au chou. En Australie, cette décision folle de KFC oblige le Premier ministre à réagir. C'est sur le Huffington Post.
Il n'y a pas que la laitue dans la vie, hein. Mais bon, il faudra les expliquer.
Bah, visiblement pour les Australiens, la laitue, c'est important.
Oui,
c'est...
Puis il n'y a pas que les fast-foods surtout.
Oui,
on a envie de leur dire manger autre chose, les amis.
Loin,
bon,
ouais.
Merci Martin. Je vous propose de rester en Australie, tiens, où il n'y a pas que des fans de laitue qui font l'actu au pays des kangourous. Il y a aussi question de salon de coiffure d'un nouveau genre, comme nous le rapporte ce matin le Figaro Madame, mon petit péché mignon du vendredi, l'expression de ma part cachée de féminité. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'adore aller chez le coiffeur. Alors j'ai bien conscience qu'en l'état, ce n'est pas évident, vu l'anarchie capillaire qui règne sur ma tête, mais une fois tous les deux ou trois mois, je me rends d'un pas léger, retrouver Anne-Sophie, ma fidèle coiffeuse. Déjà parce qu'à chaque shampoing... je l'embrasse. Hein.
C'est vendredi confidence.
Ouais. Absolument. À chaque shampoing, j'ai le droit à un délicat massage crânien. Et puis surtout parce qu'à chaque passage dans son salon, c'est l'occasion d'une discussion endiablée. Amour, boulot, vacances, météo, tout y passe. Pendant que ses ciseaux experts tentent de mater quelques mèches rebelles. D'où ma stupéfaction ce matin à la découverte de cet article. Il nous apprend qu'en Australie, donc, la grande mode est au salon de coiffure. Silencieux, des salons où juste après avoir convenu d'une coupe ou d'une couleur, votre coiffeuse ou coiffeur est tenu de vous poser cette question. Souhaitez-vous discuter ou préférez-vous que nous gardions le silence ? Certaines
c'est
personnes...
sympa, c'est naturel.
Ouais. C'est pas contractuel surtout. Non, certaines personnes ne veulent tout simplement pas discuter, explique H, coiffeuse qui officie à Sydney, où elle observe depuis quelques mois une très forte augmentation de la demande pour ces rendez-vous silencieux. Le besoin d'expérience plus calme est devenu essentiel depuis la pandémie, analyse la professionnelle. Souvenez-vous, il y a encore quelques semaines, c'était masqué qu'on se faisait coiffer. Eh bien, ce masque, ce bout de tissu sur le visage nous aurait peu à peu rendu muets face à la glace. Aujourd'hui, nombreux seraient ceux qui préféreraient le bruit sec des ciseaux, le vrombissement du sèche-cheveux aux discussions plus ou moins intéressante. Ce qui n'était qu'une pratique confidentielle il y a quelques années dans une poignée de salons branchés est en train de devenir la norme en Australie, tant l'engouement est élevé. D'ailleurs, le groupe de coiffure Edwards & Co. vient par exemple d'adopter cette option spéciale dans tous ses salons. Concrètement, si vous voulez en bénéficier, il suffit de le préciser au moment où vous réservez votre rendez-vous au téléphone. Quant aux plus timides, ceux qui ne parlent que s'ils y sont obligés, ils peuvent même envoyer un email à leur coiffeur ou remplir un questionnaire à leur arrivée au salon silencieusement, bien sûr. Silence qu'apprécient aussi certaines coiffeuses et coiffeurs plus obligés, il faut le dire contractuellement, d'avoir à alimenter des conversations d'une banalité confondante. Oh, il va faire beau ce week-end. Et vous avez vu 6 euros le kilo de cerise. Tiens, c'est non, absolument.
De laitue.
Ouais, ou de laitue. Excusez-moi. 6 $ canadiens la laitue. Nous apprécions aussi ce calme. Il nous permet de nous concentrer sur ce qu'on fait, confirme une coiffeuse australienne. Du coup, je comprends mieux pourquoi je suis aussi mal coiffée. Ma coiffeuse et moi sommes beaucoup trop bavards. Des salons de coiffure silencieux, c'est-à-dire dans le Figaro Madame.
C'est vachement naturel hein, du coup de demander si on doit se taire. Merci beaucoup Julien et merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h20, le journal permanent, Alban Le Prince.
Le petit ami, à vous, après la découverte hier du corps d'une collégienne de 14 ans à Clessé en Saône-et-Loire, présentant de nombreuses plaies, un couteau encore planté dans le cou, son petit copain placé en garde à vue est passé aux aveux, il risque 20 ans de prison. Dans l'affaire du refus d'obtempérer, le conducteur mis en examen notamment pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique ou encore récidive de refus d'obtempérer aggravé, toujours hospitalisé, il est sous le régime de la détention provisoire. Dans le dossier des Kinder contaminés à la salmonelle en pleine période de Pâques, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui.
Europe 1. 5h21 sur Europe 1. On donne à présent la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. Vous connaissez ce rendez-vous, les initiatives en France. Et Julien, ce matin, une innovation pour étancher notre soif sans faire de mal à la planète.
Bonjour Sarah Bagot.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes la co-créatrice de Strobon, une paille écologique et comestible. Expliquez-nous.
Alors oui, c'est une paille que nous avons créée dans le cadre de nos études d'ingénieurs avec Elsa Perbet et Anaïs Prévet. Donc c'est une paille que l'on a voulu écologique dans le sens où elle ne va pas polluer l'environnement car elle n'est pas faite en plastique ou en d'autres matériaux qui ne se dégradent pas. Elle est également écologique dans le sens où on peut la manger. Donc on n'a pas de déchets derrière. Elle est comestible parce qu'elle est faite à partir de deux ingrédients, donc la purée de fruits déshydratée et de la cire d'abeille que l'on vient utiliser comme enrobage.
Donc une fois qu'on a bu sa boisson, on peut vraiment la manger comme si c'était un graissin par exemple ?
Oui, exactement. On boit avec et ensuite, une fois qu'on a fini sa boisson, on peut croquer ou même pendant qu'on boit sa boisson, entre deux gorgées, on peut croquer dans la paille.
C'est-à-dire qu'elle reste rigide au contact du liquide, elle n'altère pas le goût de la boisson ?
Exactement, parce que justement, il y a cette fine couche de cire d'abeille que l'on vient utiliser comme enrobage. Et on peut quand même adapter le goût de la paille à la boisson. Par exemple, si on a un jus d'orange et qu'on veut, ou un jus de pomme et qu'on fait une paille à la pomme, on peut l'avoir.
Et les fruits que vous utilisez pour fabriquer cette paille, vous les trouvez où ?
On s'est fourni sur le marché et ce qu'on aimerait à terme, c'est pouvoir produire des pailles locales avec des fruits et légumes locaux, des producteurs. Et dans l'idéal, des fruits et légumes invendus. Que ce soit
ce qui rendrait le projet d'autant plus écologique et d'autant plus responsable vis-à-vis de la planète. Alors vous êtes trois dans ce projet, trois ingénieurs agronomes, très calés, on vient de l'entendre sur l'aspect technique. Mais en ce qui concerne le goût, vous êtes allé chercher des conseils ?
Ah oui, c'est renseigné d'abord autour de nos enseignants, autour des personnes compétentes par rapport à ça. Et on a été amené aussi à contacter le centre de recherche d'Institut Paul Bocuse. Donc leur chef, Julien Ferretti, nous a gentiment accueillis et aidés dans l'élaboration du projet.
Comment vous est venue cette idée de créer une paille écologique sans plastique et comestible ?
Alors, dans un premier temps, il faut savoir que c'était dans le cadre d'un module pédagogique que nous avions eu à l'école, donc dans lequel il fallait créer un produit alimentaire innovant. Et donc, on avait, en faisant quelques recherches, on a remarqué l'impact environnemental des pailles en plastique à usage unique sur l'environnement, du coup, et notamment les océans, avec une vidéo d'une tortue qui s'est retirée une paille du nez. Et en plus de ça, on avait aussi le contexte légal qui jouait en notre faveur avec l'interdiction de production des pailles en plastique à partir de janvier 2021 et d'utilisation de vente à partir de juin 2021, il me semble.
Et pour l'instant, vous en êtes à quel stade du développement ?
Pour l'instant, du coup, on a un procédé artisanal et on est en train de travailler sur l'industrialisation du procédé.
Donc, vous avez déposé les brevets, créé la société, il ne manque plus que les investissements, c'est ça ?
On n'a pas encore créé la société, pas encore déposé de brevets. On est en train de travailler là-dessus, justement, en ce moment. Là, on travaille vraiment sur la phase de R&D à l'étape industrielle.
Vous recherchez des financements, des investisseurs éventuellement pour vous aider à passer cette étape cruciale ?
Oui, on est en train de rechercher des financements. Donc, tout type de financement, que ce soit investisseurs, concours, etc. On essaye de passer par toutes les portes possibles.
Et votre ambition à terme, c'est quoi ? C'est investir tout d'abord les bars et restaurants haut de gamme, branchés, avant ensuite éventuellement à toucher un plus large public ?
Alors oui, voilà, notre cœur de cible, c'est vraiment les cafés, hôtels, restaurants plutôt haut de gamme. Et après, bien sûr, on peut toujours élargir notre panel, on va dire, et entrer en production pour, par exemple, on avait l'idée d'enfants pour pouvoir leur faire appréhender l'approche avec des fruits et légumes sous forme plutôt ludique et amusante, originale. Oui, enfin, élargir. Ouais.
Merci beaucoup, Sarah Bagot, de nous avoir fait découvrir cette jolie initiative, cette alternative intelligente au tout plastique. Strobon, c'est son nom, une paille écologique et donc comestible. On vous souhaite plein de réussite et à très bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour à vous, bon réveil, merci d'avoir choisi Europe 1. Dans un instant, le journal de 5h30 de Christophe Lamarre, où il sera question notamment d'objets volants non identifiés. Et puis, gros week-end de sport automobile en perspective avec la 90e édition des 24 heures du Mans.
Oui, l'une des courses les plus prestigieuses au monde. Et sur la ligne de départ demain, la Ferrari 488 GTE de Iron Dame, la première écurie 100% féminine. On sera dans un quart d'heure avec celle qui l'a fondée, la pilote et entrepreneuse Déborah Laura Mayer, présidente de la commission des femmes dans le sport automobile. Elle nous dira comment les femmes arrivent à se faire une place dans cet univers extrêmement masculin.
Et puis musique à 6h10 avec Stéphanie Loire.
La chanteuse Néné Chéri est de retour avec un album de reprise. Rendez-vous dans 20 minutes.
Mais avant la météo, avec Anissa Haddadi, temps contrasté, Anissa, entre l'extrême nord et le reste du pays.
Oui, c'est vrai que sur le nord et particulièrement les côtes de la Manche, on a un ciel gris couvert avec des petites averses sur le littoral ce matin. Alors, les nuages arrivent jusqu'en région parisienne ce matin, mais vous allez voir que dans l'après-midi, ça va vraiment se concentrer uniquement sur le littoral de la Manche. Alors là, c'est couvert et partout ailleurs, mais sans exception. Soleil radieux dans un ciel dégagé. On commence à arriver sur une belle semaine estivale. Là, vous allez pouvoir ressortir les lunettes de soleil, les casquettes, les chapeaux. On va vraiment vers du beau temps. Attention, dans le sud, on va encore surveiller de près ce vent qui souffle de plus en plus fort. Mistral et Tramontagne, 80-90 km/h encore aujourd'hui. Les températures, 6 à 20 degrés du nord au sud ce matin. Cet après-midi, 19 à Cherbourg, 21 à Quimper, 23 à Paris et Caen, 25 pour Aurillac, 27 à Lyon, 30 à Marseille et jusqu'à 33 dans le sud-ouest. La chaleur arrive. Ça va être très très chaud ce week-end dans le sud-ouest.
Hydratez-vous donc. Pourquoi je dis ça à chaque fois?
Merci
beaucoup.
Parce que vous avez raison, docteur Pierce. Ce conseil.
Ouais, le docteur Pierce, il va retourner là où il est. Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
À la une de ce vendredi, les aveux du petit ami de la collégienne poignardée à Clessé, en Saône-et-Loire, il reconnaît l'avoir tué de plusieurs coups de couteau. La commune est sous le choc. Dans ce journal, les mairies face à l'inflation des prix dans les cantines scolaires. Certaines ont choisi de supporter intégralement la hausse, d'autres, au contraire, veulent la reporter sur les parents d'élèves. Et puis le football, le match du rachat pour les Bleus de Didier Deschamps, ce sera ce soir face à l'Autriche.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. La stupeur et l'incompréhension à Clessé en Saône-et-Loire. C'est dans ce petit village du Mâconnais que le corps sans vie d'une adolescente de 14 ans a été découvert au petit matin, tué de plusieurs coups de couteau. L'enquête s'est rapidement orientée vers son petit ami du même âge, placé en garde à vue. Il a reconnu être l'auteur du meurtre. Jean-Luc Bougeon.
Très vite hier matin, les auditions des camarades de l'adolescente mettent les enquêteurs sur la piste de son petit ami, un garçon de 14 ans scolarisé dans la même classe de 4e, avec qui elle entretenait depuis novembre dernier une relation compliquée. Pour Méline, l'une de ses amies, c'était un garçon toxique avec une influence négative sur la jeune fille.
Ça fait un moment qu'elle n'allait pas bien à cause d'un garçon, on va dire qu'il l'a manipulé beaucoup et qu'il lui faisait faire plein de bêtises. Ils étaient amoureux les deux, mais enfin, il lui faisait plein de crasses, enfin, il faisait un peu n'importe quoi avec elle, il l'insultait. Il la faisait sortir la nuit, plein de trucs comme ça.
C'est au cours d'un de ces rendez-vous nocturnes en cachette de leurs parents que le garçon a assassiné sa petite amie, un acte d'une très grande violence, explique Éric Jallet, le procureur de Mâcon.
Le corps de la jeune fille supporte plusieurs dizaines de traces de coups de couteau sur le haut du torse, les épaules, sur le visage et sur le cou. Un couteau est resté planté au niveau de la gorge de la jeune fille.
Devant les enquêteurs, le garçon a rapidement avoué les faits, mais sans expliquer son passage à l'acte. Tout juste a-t-il raconté que lui-même aurait été récemment victime de violences de la part de son père. Il va donc continuer d'être interrogé, sa garde à vue pouvant être prolongée jusqu'à 48 heures. Clessé, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et autre enquête, celle sur le refus d'obtempérer qui a conduit trois policiers à ouvrir le feu sur un véhicule à Paris samedi soir. Le conducteur a été mis en examen et placé en détention provisoire à l'hôpital où il a été admis après avoir été blessé au thorax.
C'est l'autre conséquence de l'inflation. La facture des cantines scolaires s'annonce salée pour la prochaine rentrée.
Au moins 10% de hausse. Il ne s'agit que d'une moyenne et les prix peuvent varier d'un prestataire à l'autre. Il y a l'augmentation des prix de l'énergie et bien sûr des aliments. Un exemple avec les pâtes, plus 40% de hausse. À la fin, il faut bien que quelqu'un règle la note, Geoffrey Branger, et c'est un casse-tête pour les collectivités.
Oui, alors pour vous donner une idée de l'enjeu, plus de 6 millions d'enfants mangent chaque jour à la cantine dans l'un des 60 000 établissements scolaires de France. Les solutions sont donc multiples. À Libourne, en Gironde, la ville dépense pour ses 15 écoles plus de 500 000 euros par an. Cette année, la facture devrait grimper de 10 à 30%. Pour l'adjoint délégué à l'éducation Thierry Marty, pas question d'augmenter les prix à la rentrée.
Il y a un choix politique, en fait, qui est de ne pas faire supporter aux familles cette hausse de prix. Et donc, du coup, nous, on fait le choix de l'absorber avec le budget de la ville.
Alors, toutes les municipalités n'ont pas les moyens d'absorber ces surcoûts. Selon l'Association des maires de France, la moitié des communes devront augmenter leurs tarifs, comme à Cabario, en Charente-Maritime. 1400 habitants. En septembre, les repas augmenteront de 30 centimes, soit 6 euros de plus chaque mois. A l'inverse, à Bayeux, dans le Calvados, la ville a choisi une autre option, réduire le coût des repas. Arnaud Tanquerel est le vice-président de la communauté de communes déléguée à l'enseignement.
On a une cuisine centrale qui permet de travailler des produits locaux, des produits aussi issus de notre jardin permacole qu'on a mis en place il y a un an et demi. Et puis on travaille aussi beaucoup avec les enfants sur le gâchis alimentaire. Donc il y a des pesées qui sont faites tous les jours sur nos quantités de déchets jetés. Et donc on préfère faire cette économie sur les rations.
Et la ville a également signé des contrats à l'année avec les producteurs locaux pour ne plus dépendre autant de l'évolution des prix.
Geoffrey Branger du service économie d'Europe 1. L'inflation qui s'établit à 5,2% en France et dépasse les 8% dans la zone euro. C'est ce qui pousse la Banque Centrale Européenne à mettre fin à l'argent magique. La BCE confirme l'arrêt de son programme d'achat d'actifs et acte la remontée des taux d'intérêt en juillet et septembre prochains.
5h et bientôt 35 minutes sur Europe 1. La guerre en Ukraine, intense combat dans le Donbass et nouvel entretien téléphonique entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron.
La ville de Severodonetsk reste l'épicentre de la bataille. Les forces russes ont repris le terrain perdu et contrôlent à nouveau une majeure partie de la ville. L'armée ukrainienne, désormais à court de munitions, dépend plus que jamais de l'approvisionnement des Occidentaux. Le président ukrainien a d'ailleurs parlé armes lourdes avec Emmanuel Macron hier. La France reste mobilisée pour venir en aide à l'Ukraine, lui a répondu le chef de l'État.
Aux États-Unis, la commission d'enquête sur l'attaque du Capitole charge l'ancien président Donald Trump.
Une tentative de coup d'État et Donald Trump était au centre d'un complot visant à le maintenir au pouvoir. Première conclusion de l'enquête parlementaire qui s'appuie sur l'étude de 140 000 documents et l'audition de près d'un millier de témoins.
On reste aux États-Unis. La NASA relance la chasse aux ovnis.
Et après les services de renseignement, puis le Pentagone, c'est donc au tour de la NASA de se pencher sur les ovnis, ces objets volants non identifiés. L'agence spatiale américaine va lancer une grande enquête à l'automne. Alexis Guilleux, l'idée, c'est bien sûr d'expliquer ces phénomènes.
Oui, et cette mission correspond parfaitement aux prérogatives de l'agence spatiale, selon Thomas Zuborchen, administrateur associé à la NASA, qui a décidé de lancer cette enquête.
Une partie de notre travail à la NASA consiste non seulement à faire de la recherche fondamentale dans le ciel et l'espace, mais aussi à trouver la vie ailleurs.
Alors, les récents rapports du Pentagone et du renseignement américain n'ont pas résolu le mystère autour des ovnis. Il n'y a pas de preuve d'existence de vie extraterrestre, mais des dizaines de phénomènes observés restent inexpliqués. Le premier objectif de la NASA sera donc de compiler les données existantes avant d'en chercher de nouvelles.
Nous avons accès à un large éventail d'observations de la Terre depuis l'espace. C'est l'élément vital de la recherche scientifique. Nous avons les outils et les équipes qui peuvent nous aider à améliorer notre compréhension de l'inconnu.
Avec un budget de 100 000 dollars, l'équipe sera composée d'experts de la NASA et de spécialistes en aéronautique. L'enquête doit durer 9 mois et débouchera en 2023 sur un rapport public avec le but de faire la lumière sur ce qui est aujourd'hui un angle mort de la recherche scientifique.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Football, les Français doivent impérativement réagir ce soir face à l'Autriche.
Et ils sont toujours à la recherche de leur première victoire en Ligue des Nations. Les Bleus ont l'occasion de le faire face à des Autrichiens qui ne partent pas favoris. Cyril de la Morinerie, les champions du monde sont usés après une longue saison, mais les supporters français y croient plus que jamais.
Oui, devant le stade Ernest Happel de Vienne, trois supporters français mettent un peu d'ambiance. Axel croit au rebond de l'équipe de France, même s'il s'impatiente un peu.
Bah là, ouais, on a envie de les voir gagner, parce que ça fait longtemps qu'on ne gagne plus. Hein. Pour la France, deux matchs, ça fait déjà beaucoup. Hein. Souvent, avant les grandes compétitions, on n'est pas forcément les meilleurs.
En attendant, les Bleus, troisième de leur groupe, sont au pied du mur. Et Didier Deschamps doit maintenant répondre à cette équation. Est-il possible de défendre le titre de Ligue des Nations tout en préparant la prochaine Coupe du Monde prévue dans 5 mois?
Les deux ne sont pas incompatibles. On a pris du retard, donc après, évidemment, c'est un troisième match. On va tout faire comme c'était le cas pour le deuxième, de penser à le gagner. Ça reste aussi des matchs de préparation avec beaucoup de changements.
Et le sélectionneur va ainsi continuer sa rotation. Une obligation vu le manque de fraîcheur physique de ses hommes. D'ailleurs, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot restent incertains. Ils n'ont pas participé à l'entraînement hier soir. En revanche, si en Croatie c'était une équipe bis, ce soir Didier Deschamps devrait relancer quelques-uns de ses cadres, notamment Karim Benzema, pour le plus grand bonheur des supporters.
Benzema.
Voilà un retour qui fait des heureux. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. C'est vrai que Karim Benzema, quand même auteur d'une saison juste remarquable avec le Real Madrid. Autriche-France ce soir à 20h45. Match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Un mot de basket, Julien. La finale du championnat de Pro A posera l'ASVEL à Monaco. Les Monégasques ont arraché leur billet hier soir face à Pau. Victoire 85-83 dans la quatrième manche.
Et ils vont tenter d'obtenir le premier titre de leur histoire. C'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup, Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet. Et c'est évidemment avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est en nocturne à Vincennes que va se courir ce quintet, une course au trot attelé qui réunira 15 chevaux âgés de 7 à 9 ans sur la distance de 2850 mètres. Et j'ai choisi Falco Berry, le numéro 6, comme favori. Oubliez toutes ces dernières courses qui ne reflètent en aucun cas sa vraie valeur et surtout ce qu'il montre le matin à l'entraînement. Désormais sous la responsabilité de Jean-Michel Bazire, ce trotteur en retard de gain pourrait bien, dès cet après-midi, refaire surface. On lui opposera les numéros 15 et Berton, idéalement engagés à la limite de la qualification et qui, je le sais, a été préparé avec soin pour cet objectif. 1. Zante Lazer, une jument italienne en plein boom, comme le prouve sa dernière victoire obtenue le 27 mai à Vincennes. Et 7. Formi, lauréat de ses deux dernières courses à Vincennes puis à Cavaillon, et pour lequel son entraîneur Ludovic Pelletier effectuera une nouvelle fois un très long déplacement depuis le centre-est avec de légitimes ambitions. Enfin, les numéros 12, Fareggio Menuet, 2. First Dubois, 11. Flash Gordon et 13. Diego Duhoulet compléteront ma sélection. Mon pronostic, 6, 15, As, 7, 12, 2, 11 et 13.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu de la...
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Et c'est maintenant le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Bonjour Nina Droff.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Nous sommes le 10 juin, Nina, et vous nous ramenez 24 ans en arrière, au tout début de la mythique Coupe du Monde 98, remportée pour la première fois par la France.
Cette Coupe du Monde s'ouvre avec une cérémonie spectaculaire. Sur la pelouse du Stade de France, 32 acrobates déplient les drapeaux des pays représentés. Axel Red et Youssou N'Dour interprètent la cour des grands. Le stade est plein à craquer, les rues autour sont noires de monde et 2 milliards de personnes sont devant leur télévision. C'est le président de la République, Jacques Chirac, qui donne le coup d'envoi.
Je déclare ouverte la 16e Coupe du Monde de football en France.
Le président, qui est d'ailleurs très confiant et optimiste pour cette Coupe du Monde, hein, voilà ce qu'il disait avant même le début du tournoi.
Je devrais pouvoir remettre à l'équipe de France la Coupe Jules Rimet. Alors je m'entraîne moi aussi, je m'entraîne à cette remise.
Ce 10 juin au Stade de France, Écosse-Brésil. Dans les rues, les supporters des deux équipes sont survoltés. Jean-Pierre Montané est sur place pour Europe 1.
En guise de cage de foot, des packs de bière, un ballon et 3 Écossais contre 3 Brésiliens.
I'm from Scotland, I support Scotland.
Je viens d'Écosse et je soutiens l'Écosse, mais les Brésiliens sont nos amis. Mais j'espère quand même qu'on va les battre.
Score final 2-0 pour le Brésil. La fête se poursuit jusqu'au bout de la nuit.
Et ce match se joue dans un stade tout neuf, Nina, qui n'a encore jamais été utilisé.
Oui, le Stade de France, on l'appelle encore à l'époque le Stade de Saint-Denis, construit pour l'occasion, plus de 80 000 places qui font envie à tous les supporters, comme le rapporte le journaliste Manuel Tissier pour Europe 1.
Arthur, subjugué, oublie la rivalité entre Paris et Marseille.
C'est vraiment joyeux par rapport au Vélodrome et on rentrera déçu de Marseille et de notre stade.
Et pourtant, c'est bien en terre marseillaise que l'équipe de France, deux jours plus tard, inscrit son premier but face à l'Afrique du Sud.
Encore un corner pour l'équipe de France, toujours 0-0.
Et c'est Zinedine Zidane qui va donc tirer ce corner.
But, écoutez des buts, but terrible, but de Dugarry,
Un but suivi par deux autres qui permet aux Bleus d'empocher leur toute première victoire. Inarrêtable, ils terrassent le Paraguay, l'Italie, la Croatie.
Et là, voilà, et but, et but, et but de Laurent Blanc, et but de Laurent Blanc, et golden goal de Laurent Blanc.
L'Italie, si elle ne marque pas, l'équipe de France sera en demi-finale de la Coupe du Monde. Et il ne marque pas,
on est qualifié, on est qualifié.
2-1 contre la Croatie.
Un chemin pavé d'or qui mène à la finale, France-Brésil, le 12 juillet 98.
Troisième but, 3-0. Nous sommes, ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique, inimaginable.
Inimaginable. Merci beaucoup, Nina Droff. C'était le jour où, à suivre. Sur Europe 1, tiens, du sport encore, mais du sport automobile. Une écurie 100% féminine aux 24 heures du Mans ce week-end.
Omblin Roche et Julien Pierce
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est bientôt 5h44. C'est la course d'endurance la plus prestigieuse au monde. Les mythiques 24 heures du Mans vont se courir ce week-end. 90e édition avec, comme à chaque fois, les meilleurs pilotes du moment. Pilotes masculins, mais aussi féminins, puisque parmi les 62 voitures qui seront au départ demain, on trouvera la Ferrari 488 GTE, c'est très précis, de l'écurie automobile 100% féminine Iron Dames ou Iron Dame.
Et elle porte le numéro 85. Bonjour Déborah Mayer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes pilote, ambassadrice Ferrari, présidente de la commission des femmes dans le sport automobile et vous avez fondé en 2018 le projet 100% féminin Iron Dame, Iron Dames, au sein de l'écurie italienne Iron Lynx. Parlons d'abord de la course, Déborah Mayer, des 24 heures du Mans. La bagarre pour la victoire s'annonce intense.
Tout d'abord, c'est un énorme plaisir et honneur pour l'équipe d'Iron Dames de participer à sa 4e compétition des 24 heures du Mans consécutive en catégorie GTE AM et pour laquelle l'équipe s'est non seulement bien préparée mais vise un podium à l'arrivée.
Votre voiture est donc une Ferrari 488 GTE, c'est bien ça?
Oui.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir 500 chevaux au bout du pied et d'être propulsé à 300 km/h?
Cela entraîne une énorme responsabilité. Cela démontre une grande préparation, à la fois technique et physique et mentale, dont la participation aux 24 heures du Mans est l'aboutissement, la concrétisation de tout un travail qui s'effectue en amont par les pilotes elles-mêmes, mais également par toute l'équipe qui les entoure, équipe qui est composée à la fois d'un encadrement masculin et féminin et qui accueille de plus en plus de femmes en son sein.
Les pilotes, une seule voiture, trois pilotes, Sarah Bovy, Michelle Gatting et Raël Frey, elles vont se relayer évidemment pendant ces 24 heures du Mans.
Oui, c'est une course très longue, une course d'endurance, très astreignante et très contraignante pour les pilotes, pour les organismes, pour l'équipe. Mais elles sont tout à fait prêtes et très soudées. Elles concourent, elles se connaissent bien. Elles sont en compétition ensemble depuis l'année dernière et cette année, elles sont actives dans trois championnats, en European Le Mans Series, championnat européen, en WEC, en World Endurance Championship, pardon, et en GT World Challenge Europe, où elles ont réalisé un magnifique podium, une deuxième place la semaine dernière aux 1000 km de Paul Ricard.
Alors vous, Déborah Mayer, vous ne serez pas sur le circuit du Mans ce week-end, vous ne piloterez pas, mais on l'a dit, vous êtes pilote, vous avez participé à plusieurs courses. Comment êtes-vous arrivée dans le sport automobile qui n'est, hélas, pas encore une évidence pour une femme?
Par pure passion. Tout d'abord, en fait, parce que j'ai commencé à conduire lorsque j'avais 16 ans. J'ai réalisé la conduite accompagnée en France. J'ai passé mon permis de conduire dès que je l'ai pu à 18 ans. Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, la conduite automobile était le meilleur moyen pour moi de me déplacer après le travail. Il m'offrait la flexibilité, la liberté nécessaire pour me déplacer. Et puis, il y a quelques années, quand j'ai fait la connaissance de celui avec qui je partage la vie, ma vie professionnelle et personnelle, Claudio Schiavoni, nous sommes découverts une passion commune qui était la conduite, la voiture, juste le plaisir de bouger. Et petit à petit, nous avons pris des cours de conduite, nous avons passé notre licence de compétition ensemble. Et en 2016, nous avons débuté la compétition. En 2018 a vu le jour le projet Iron Dames, qui est un peu le projet qui me tient le plus à cœur. C'est le projet qui est un peu le reflet de mon expérience personnelle, de celle d'une femme qui a été longtemps une des rares femmes actives dans un environnement professionnel où les femmes étaient la minorité. Et quand j'ai découvert le sport automobile et que l'équipe Iron Lynx a vu le jour et s'est développée, tous les éléments étaient finalement réunis pour créer le projet Iron Dames, dont le but est la promotion des femmes dans le sport automobile.
Là, ce que vous racontez, c'est vraiment l'histoire d'une vie, de votre vie, c'est venu petit à petit. Des femmes pilotes ont déjà participé aux 24 heures du Mans, mais une équipe au complet, de l'ingénieur à la mécanicienne en passant par la team manager, ça c'est rare dans l'histoire du sport automobile. C'est ce que vous voulez aussi, c'est ce que vous cherchez.
L'objectif du projet Iron Dames est de promouvoir la place des femmes dans le sport automobile. Pas seulement les femmes pilotes, mais également toutes les femmes qui sont actives et qui peuvent réaliser une carrière dans le sport automobile. Comme vous l'avez mentionné, des directrices d'équipe, les directrices sportives, des ingénieurs, mécaniciens. des femmes directrices de la communication, du marketing ou à l'hospitality. Il y a énormément de possibilités ouvertes aux femmes talentueuses dans le sport automobile. Mmh. Sport automobile qui est un des rares sports au monde, avec l'équitation et les sports nautiques, qui ne soit pas genré, où les femmes et les hommes peuvent concourir et être en compétition à armes égales.
Et ensemble, le sport automobile, malgré tout, est une discipline masculine, ça n'échappe à personne. Mais est-ce que les marques font-elles des efforts pour que ce sport auto se féminise de plus en plus ? Est-ce que ça évolue ? Est-ce que vous le constatez ?
On constate une évolution. Pendant de très longues années, vous voyez ici et là une ou deux femmes actives, soit en tant que pilote, soit en tant qu'ingénieur ou en tant que directrice d'équipe. Maintenant, vous en voyez de plus en plus. Certes, leur proportion et leur part est encore relativement faible et peut croître, mais petit à petit, on constate une évolution.
Est-ce que, avec ces 24 heures du Mans et cette écurie Iron Dames, vous souhaitez inspirer des vocations auprès des jeunes filles qui pourraient devenir elles aussi pilotes ? Est-ce que c'est aussi votre rôle d'être l'image de la femme dans le sport auto ?
Mon vœu le plus cher est de susciter des vocations, de montrer à des jeunes femmes, à des jeunes filles, qu'elles ont toute leur place dans le sport automobile, qu'il existe énormément de possibilités, qu'il n'y a pas de barrières ou d'obstacles qu'elles ne puissent surmonter, que souvent le plus difficile est d'avoir la bonne information ou d'avoir le bon contact ou la bonne personne à qui s'adresser.
Et on va vous suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention ce week-end. Merci beaucoup, Déborah Maillard, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes entrepreneuse, pilote, présidente de la commission des femmes dans le sport automobile et vous avez fondé l'écurie 100% féminin Iron Dame, qui est sur le circuit des 24 heures du Mans, départ demain à 16h. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Allez, après la musique des moteurs, la musique tout court.
Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour à tous, bonjour Robin, bonjour Julien.
Bonjour Stéphanie. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de l'icône des années 90, la rappeuse suédoise Néné Cherry. Elle est de retour avec un album de reprise.
Oui, Néné Cherry, 58 ans, aujourd'hui d'ailleurs un icône du hip-hop et de la mode, artiste inspirante, féministe, mère, grand-mère et toujours l'une des idoles de plusieurs générations, publie un disque de reprise de ses tubes, et ils sont nombreux, un disque accompagné de personnalités de la nouvelle génération. C'est un album collaboratif puisque l'artiste a ouvert sa discographie à un casting 100% féminin d'amis et de musiciennes dont elle est proche pour créer un album qui transpire littéralement le talent. Des artistes comme la superstar, ancienne parolière des plus grandes stars, Sia, interprète du tube Chandelier, qui revisite ici Mind Child, un titre publié à l'origine en 1989, extrait du premier album devenu culte de Néné Cherry, Raw Like Sushi. Si vous voulez, on l'écoutera en entier à la fin de cette chronique, pourquoi pas. Elle est une balade que Néné Cherry considère comme celle qui a façonné son style, qu'elle a composé sur un clavier Casio, le même qu'elle utilise encore à ce jour. Elle avait sollicité deux des membres de Massive Attack, encore totalement inconnus à l'époque, pour son disque, et ils ont d'ailleurs co-signé Manchild. Avant Sia, il y a eu Robin, son amie chanteuse pop suédoise, et Mapei qui ont apporté leur éclairage sur le tube Buffalo Stance, issu du même album, revisité ici de manière très sensuelle et plutôt dépouillée, avec toujours bien sûr Néné Cherry en featuring. Buffalo Stance, à l'époque, un titre précurseur entre punk et hip-hop qui illustre très bien les fulgurances de Néné Cherry et qui a d'ailleurs lancé sa carrière en se hissant à la première place du Billboard US. Le Billboard US, c'est l'équivalent de notre top 50 à nous. 5 albums studio ont émergé depuis le succès de Buffalo Stance en 1988. Et fidèle à son héritage, fille du trompettiste de jazz de talent Don Cherry, Néné Cherry est une artiste libre. Elle a également embrassé la gloire en interprétant Seven Seconds en 1993 avec Youssou N'Dour. Et puis il y a eu l'album Man en 1996 sur lequel figure son indétrônable masterpiece Woman. This is the woman's way. This is my way. Parmi les autres collaboratrices du nouveau projet de Néné Chéri, The Versions, figure aussi Tyson McVeigh. Et qui est Tyson McVeigh? La fille de Néné Chéri. Il y a donc des femmes qui entretiennent bien un lien fort et particulier avec elle. Comme promis, je vous propose d'écouter et en entier cette fois la version de Manchild Parcia et Néné Chéri sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, dans un instant la météo, le journal et un triste anniversaire.
Oui, il y a 78 ans, jour pour jour, le 10 juin 1944, une division de la Waffen-SS pénétrait dans le petit village d'Oradour-sur-Glane pour y commettre le pire massacre de civils perpétré en France par les nazis. Des hommes, des femmes et beaucoup d'enfants fusillés ou brûlés vifs. 643 victimes au total et seulement une poignée de rescapés dont fait partie notre invité Robert Hébras. Bientôt 97 ans, le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane. C'est d'ailleurs le titre du livre qu'il sort en compagnie de sa petite fille Agathe Hébras, à qui il a transmis le flambeau, cette mission, faire en sorte que les ruines d'Oradour et la mémoire des victimes survivent à l'érosion du temps. Tous deux seront nos invités exceptionnels dans une petite dizaine de minutes. On écoutera ensuite Omblin votre partition.
Et le son Electro Made in France de Phoenix. En attendant un nouvel album, retour en 2009 quand les Versaillais crèvent l'écran aux États-Unis. Rendez-vous dans 20 minutes.
Et on va laisser Phoenix pour la météo, puisque je crois qu'elle est plus haute circonstance, non? Assez estivale comme, comme le groupe.
C'est la journée parfaite pour écouter Phoenix.
Ouais.
Là, vous êtes dans la voiture. Fenêtre ouverte,
décapotable,
lunettes de soleil. Bon, alors pas partout. Ah. Parce que si vous prenez un décapotable sur les côtes de la Manche, par exemple,
alors ça va être. La musique.
On est
en...
on est arrosé.
Voilà. Alors c'est vrai qu'il va faire beau quasiment partout, sauf, on a, c'est vrai qu'on a un bémol sur la France aujourd'hui. C'est le nord-ouest, entre la Bretagne et les Hauts-de-France, le long des côtes de la Manche. C'est assez gris ce matin avec des petites averses. Et puis dans l'après-midi, il y aura un petit peu plus de soleil entre les pays de la Loire et les Ardennes, en passant par la région parisienne, partout ailleurs. C'est du grand, très beau soleil, avec dans le sud, encore du Mistral et de la Tramontane. Cet après-midi, 19 à Brest, 23 à Paris, 27 à Nice, 30 à Marseille et jusqu'à 34 au Vigan, dans le Gard.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Vous écoutez Europe 1 et on vous en remercie. Nous sommes le vendredi 10 juin. Il est 6h. Et à la une ce matin, cette question, quelle peine pour les accusés des attentats du 13 novembre? Fin du réquisitoire ce vendredi. Depuis deux jours, le parquet insiste sur le rôle de tous les accusés, à commencer par Salah Abdeslam. Récit d'audience dans un instant. Face à l'inflation galopante, de plus en plus de Français souscrivent des crédits à la consommation pour payer leurs factures. Une pratique risquée, on va vous expliquer pourquoi. Et puis on dessinera la carte de France de la sécheresse. Est-ce que votre département est concerné? Rendez-vous à la fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Journal que vous présente comme chaque matin Romane Oquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. C'est l'épilogue d'un procès hors norme, celui des attentats du 13 novembre 2015, jugé face à la Cour d'assises spéciale de Paris depuis septembre. David Montagnier, après 9 mois d'audience, 2 jours de réquisitoire, le parquet va indiquer cet après-midi les peines requises contre la vingtaine d'accusés.
Oui, ce sera le cas pour Salah Abdeslam, 32 ans, le seul membre en vie des commandos des attaques du 13 novembre. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Sa participation aux attentats ne fait pas de doute pour le ministère public, tout comme celle des 19 autres accusés que l'avocat général refuse de qualifier de second couteau. Ils ont nourri la bête, ils ont logé la bête, ils ont transporté la bête, martèle-t-il, en précisant que sans eux, il n'y aurait pas eu d'attentat. Des mots qui touchent Karine, elle a perdu son compagnon au Bataclan.
Le ministère public, moi je les remercie depuis le début de ce procès parce qu'il donne une teneur à cette audience qui est d'un niveau exceptionnel. C'est un réquisitoire qui est absolument brillant et qui est au niveau de ce qu'on pouvait attendre de la justice. Je suis très curieuse de voir maintenant, à présent, la semaine prochaine, comment les avocats de la défense vont pouvoir mettre en œuvre leur stratégie pour chacun des accusés.
Un sentiment que partagent de nombreuses parties civiles présentes au procès. Elles espèrent que les peines réclamées seront confirmées par la Cour dans son verdict attendu le 29 juin prochain.
Et avant le verdict, la parole sera donnée à la défense à partir de lundi prochain.
Le conducteur ciblé par des tirs de policiers à Paris est mis en examen pour tentative d'homicide involontaire.
L'homme de 38 ans est soupçonné d'avoir voulu échapper à un contrôle routier samedi dernier. Il a été placé en détention provisoire à l'hôpital où il a été admis après avoir été gravement blessé par les forces de l'ordre. Sa passagère touchée, elle aussi, est décédée.
C'est la fin de l'argent facile. La Banque Centrale Européenne amorce un tournant historique.
Oui, l'institution basée en Allemagne prévoit une hausse de ses taux directeurs dès le mois prochain. Près de 10 ans que cela n'était pas arrivé. Une décision actée face à l'inflation galopante sur le continent qui pourrait frôler les 7% en Europe d'ici la fin de l'année.
Une hausse des prix qui incite de plus en plus de Français à contracter des crédits à la consommation.
Et tout à fait. Rien que pour le premier trimestre, ces contrats ont augmenté de presque 9% par rapport à l'an dernier. Un moyen de payer ces factures qui n'est pas du tout une solution miracle, Noah Moussa.
Oui, c'est clairement un effet inflation qui a poussé de nombreux Français à se tourner vers les crédits à la consommation. Mais le risque, c'est de rapidement basculer vers le surendettement. Le moment où vous ne pouvez plus payer vos charges fixes, alerte Pauline Dujardin, juriste de la Fédération Crésus.
La crainte qu'on a, c'est que ces crédits aient été pris en lien avec la hausse des coûts, notamment de l'énergie, et donc pour payer des dettes, pour payer des factures. Si des gens prennent des crédits pour payer leurs dettes, peut-être qu'il y a un problème plus structurel de difficultés financières et que les gens s'enferment dans une spirale du surendettement.
Et pour cette experte du surendettement, se tourner vers les associations spécialisées vous évitera de tomber dans cette spirale.
Au moins pour faire un point, pour voir le budget et puis pour voir quelles solutions s'offrent aux personnes. Est-ce que ça va être un accompagnement budgétaire et peut-être diminuer telle ou telle charge ? Est-ce que ça va être plutôt demander au juge une suspension d'un crédit et l'association va pouvoir réorienter vers la bonne solution ?
Et conseil supplémentaire, il ne faut pas hésiter à négocier avec son crédit pour étaler vos remboursements.
Noah Moussa, l'inflation, un sujet aussi au cœur de la campagne des élections législatives. Elle se termine d'ailleurs ce soir, deux jours avant le scrutin dimanche. Pour cette dernière ligne droite, Elisabeth Borne sera dans le Calvados. La première ministre se présente dans la circonscription de Vire.
Une campagne menée de front également par Emmanuel Macron qui a demandé hier une majorité forte et claire aux Français.
Et le président de la République reçoit d'ailleurs ce midi les leaders des syndicats. Au menu, la réforme des retraites. La CGT a d'ores et déjà décliné l'invitation.
6 heures passées de 4 minutes sur Europe 1. De la Savoie en passant par le Var, la Loire ou encore la Bretagne, la sécheresse inquiète. La France traverse le troisième printemps le plus sec depuis le début du XXe siècle.
Et pourtant, tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. Dans certaines zones, le problème, c'est surtout le décalage entre les stocks et le niveau de prélèvement demandé pour l'agriculture ou l'industrie, par exemple. Louise Salé, on va se pencher avec vous sur cette carte de France. Quels sont les territoires à sec ?
Eh bien, ce sont tous ceux qui sont actuellement soumis à des restrictions d'eau plus ou moins sévères. Sur la carte de France, ça se matérialise par une grande diagonale. Elle part de l'est de la Bretagne, traverse les Pays de la Loire, le Poitou, la Charente, le Massif central et se termine dans la vallée du Rhône ainsi qu'en région PACA. 33 départements sont donc en alerte sécheresse avant même que l'été n'ait commencé. C'est inhabituel et ça n'augure rien de bon pour les prochains mois, avertit l'hydrologue Emma Aziza.
Ça nous permet d'avoir une vision à long terme pour pouvoir essayer de comprendre comment va se développer la sécheresse. Maintenant, pour réussir à lutter contre la sécheresse, il faut s'y prendre plusieurs années à l'avance pour reconvertir les territoires sur le plan agricole ou encore au niveau des villes. Et donc ça ne peut pas se jouer en l'espace de quelques mois puisque cette année, c'est déjà trop tard et finalement, les jeux sont faits.
Là où la situation est la plus critique, dans la Vienne, l'Eure-et-Loire, les Bouches-du-Rhône par exemple, les prélèvements d'eau sont à certains endroits interdits pour l'agriculture. D'après Météo France, l'humidité des sols a atteint des niveaux qui ne s'observent qu'une fois tous les 25 ans.
Et justement, pour savoir si votre commune est concernée, allez sur europe1.fr pour découvrir notre carte interactive sur le risque de sécheresse.
Elle est assez édifiante, cette carte.
6h06, justement, Julien, question peut-être un petit peu personnelle ou évidente. Est-ce que vous aimez bien le chocolat ?
Oui, ça se voit, je crois.
Je suis sûre que vous n'aimez pas autant le chocolat que ces deux employés du confiseur américain Mars. Vous savez, les barres chocolatées, oui. Ils ont dû être secourus hier après être mystérieusement tombés, c'est vrai, hein, dans une cuve géante de chocolat.
Oh, la chance.
Ça s'est passé dans une usine du nord-ouest des États-Unis. Alors, on ignore à ce stade s'ils ont été blessés. Bon, une chose est sûre, ça a dû sûrement les dégoûter de chocolat pour un bon petit moment.
Mais on les a retrouvés quand même.
On les a retrouvés, oui, oui. Mais on a dû percer la cuve. Enfin, c'était quand même compliqué.
Était-ce un acte intentionnel ou non?
L'histoire le dira.
Oui, affaire à suivre. Merci beaucoup, Romain Oquet, pour ce journal.
Il est 6h06. On passe au sport avec vous, Martin Lange, et des Bleus qui doivent se relancer ce soir à Vienne.
Oui, après deux matchs sans victoire, chose rarissime sous le mandat de Didier Deschamps, l'équipe de France affronte l'Autriche ce soir. Une victoire est indispensable pour conserver ses chances dans cette Ligue des Nations. Écoutez le capitaine Hugo Lloris.
On se trouve un petit peu dos au mur dans cette phase de groupe. On est en déficit de points. Le match devient très important et on est dans l'obligation de prendre les 3 points si on veut espérer encore se qualifier pour la suite de cette compétition.
Hugo Lloris au micro de Cyril de la Morinerie. Les Bleus qui seront encore affaiblis ce soir. N'Golo Kanté et Kylian Mbappé devraient commencer sur le banc. Autriche-France, c'est à 20h45 et c'est un suivre en direct dans Europe 1 Sport.
À la page transfert, Martin, Lyon est le premier à frapper un grand coup.
Oui, les Lyonnais ont officialisé hier le retour d'Alexandre Lacazette. Après 5 ans à Arsenal, l'attaquant de 31 ans revient dans son club de cœur avec lequel il a déjà marqué 107 fois. Il devient surtout le symbole du virage pris par le club de Jean-Michel Aulas qui souhaite désormais s'appuyer sur l'ADN OL et c'est en partie ce qui a séduit Lacazette.
Pour moi, c'est devenu évident, surtout les dernières semaines, parce que vu la situation du club et le projet, je me sentais utile, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Donc, pour tout joueur qui aime recevoir de l'amour du club, pour moi, c'était la meilleure décision à prendre.
Dans l'actualité sport, en bref, Martin.
Du basket, et on connaît l'affiche de la finale du championnat de France. Hier, Monaco a écarté Polak Orthez et rejoint l'Asvel, qualifié depuis le début de la semaine. Et puis un mot de cycliste pour finir avec la nouvelle victoire de Wout van Aert hier sur le Dauphiné. Le Belge consolide encore un peu plus son maillot jaune de leader, alors que le peloton prend la direction des Alpes et de la Haute-Montagne.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange sur
Vous
Europe 1.
Vous restez avec nous dans un instant, un témoignage exceptionnel. Le dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane, c'était il y a tout juste 78 ans, à tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h10 sur Europe 1. Vos invités ce matin, Julien, viennent de publier un livre, Le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane, et c'est chez HarperCollins.
Bonjour Robert Hébras.
Bonjour.
Merci infiniment d'être en ligne avec nous ce matin. Très exactement, 78 ans après le 10 juin 1944. C'est ce jour-là que s'est déroulé le massacre d'Oradour-sur-Glane, dont vous êtes le dernier témoin. C'est d'ailleurs le titre de ce livre que vous publiez avec votre petite fille qui est également avec nous. Bonjour Agathe Hébras.
Bonjour.
Bienvenue à vous deux sur Europe 1. C'est un immense honneur d'échanger avec vous sur ce qui restera le plus grand massacre de civils perpétré en France par les nazis. Massacre, Robert Hébras, que vous racontez à bientôt 97 ans, avec beaucoup de pudeur dans ce livre à la fois très personnel et universel. Vous racontez votre histoire familiale, votre vie, mais on sent aussi à travers ce récit qu'il est surtout question des 643 personnes massacrées ce jour-là par les SS. Leur mémoire doit absolument vous survivre.
Oui, tout ce que j'ai fait depuis le départ, c'est surtout pour les 643 victimes que je me suis investi à les faire revivre.
Et pour que cette mémoire survive, Robert Hébras, vous avez en quelque sorte désigné votre petite fille comme votre héritière mémorielle?
Oui, parce que ma petite fille, depuis son plus jeune âge, s'est très intéressée au village. On a toujours été très proches tous les deux. Elle connaît mon histoire, elle la connaît jusqu'au bout du doigt. C'est pour cette raison que j'ai décidé qu'elle soit ma successrice dans la mémoire. Mais ça n'est pas venu du jour au lendemain, ça a mis beaucoup de temps, j'ai réfléchi beaucoup. Et ce n'est qu'elle et elle seule qui peut me remplacer dans la mémoire.
Agathe Hébras, à 29 ans, ce flambeau, ce n'est pas rien. Il fait de vous la gardienne aussi d'un traumatisme, ça ne vous effraie pas?
Non, du tout. En fait, mon grand-père m'a parlé d'Oradour très tôt. Et il s'est surtout investi pour ne pas me transmettre ce traumatisme-là qu'il avait vécu. Bien sûr, c'est une histoire tragique et difficile, mais il m'a plus parlé de la vie à Oradour que de la journée du drame. Et il m'a surtout transmis tout l'humain qu'il y avait autour d'Oradour. Et on a plus échangé ensemble sur la réconciliation, la renaissance, que sur le drame et la mort.
Le 10 juin 1944, Robert Hébras, vous étiez un jeune homme de 18 ans, avec des rêves d'aventure plein la tête. Vous ne pensiez
qu'au foot et aux filles. Bref, vous étiez parfaitement normal. Quand la normale a débarqué à Oradour, quand vous avez vu les blindés de la Waffen-SS traverser le village, vous n'étiez pas inquiet ?
Non, je n'étais pas inquiet parce que je travaillais dans un garage à Limoges et comme partout, on travaillait pour les Allemands. Mais je me trouvais le 10 juin à Oradour parce qu'il y avait eu une altercation avec mon chef d'atelier, soldat allemand et mon chef d'atelier. Et lorsque j'ai quitté le garage, mon chef d'atelier m'a dit « Demain, tu resteras chez toi ». Et tout heureux de rester chez moi parce que ça me faisait un jour de congé supplémentaire.
Mais personne, ce 10 juin, à Oradour, ne prend conscience de ce qui est en train de se passer en voyant les Waffen-SS encercler le village.
Comme je savais que le débarquement avait eu lieu, lorsqu'il est passé devant moi, j'étais avec mon ami Martial, lorsqu'ils sont passés devant moi, qui m'a dit « J'ai peur, je m'en vais ». Je lui ai dit « Mais ils vont sur le front de Normandie, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de nous ?» Lui, me dit « Je m'en vais », il part en courant, il passe devant le maire et le directeur d'école, et le maire, en se moquant un petit peu de lui, lui dit « Où cours-tu si vite ?» Et il dit « J'ai peur, je vais me cacher ». Le maire lui dit « Demain, tu viendras de dire où tu étais caché ».
La suite, Robert Ebras, vous la racontez très précisément dans le livre. Tous les habitants d'Oradour sont amenés sur la place principale, puis séparés entre d'un côté les hommes et de l'autre les femmes et les enfants. Vous avez donc vu partir votre maman, Marie, et vos deux sœurs, Georgette et Denise, qui toutes trois ont été assassinées dans l'église. Quant à vous, vous êtes amenés avec d'autres dans une grange. Racontez-nous.
Oui, on était environ 50 ou 60. Dans la grange, on a été accompagné par 5 soldats qui avaient les armes sur les épaules. Et on est rentré dans la grange. Les soldats ont même cherché un balai pour se coucher, pour ne pas salir derrière leurs armes. Ils ont installé les armes. Et moi, personnellement, je ne me suis pas inquiété ni des autres du fait qu'on nous avait dit « Dans le village, il y a des armes de guerre ». Nous allons les rechercher, ceux qui ne sont pas concernés seront relâchés. Et à un moment donné, il y a un des soldats qui fait le tour du groupe, qui nous fait signe de nous lever, c'est ce que l'on fait, on se lève. Et le temps qu'ils reviennent à l'entrée de la grange, il y a une détonation dans le village, et là c'est la fusillade.
Vous n'êtes qu'une poignée à sortir vivant de cette horreur, vous vous cachez, vous arrivez à quitter le village. Et c'est le lendemain que vous apprenez ce qui s'est passé dans l'église, que votre papa vous annonce que votre maman ainsi que deux de vos trois sœurs ont été lâchement assassinées. Est-ce que ce traumatisme, Robert Ebras, il est et restera toujours en vous, même 78 ans après ?
Il restera en moi jusqu'à ma disparition.
Et puis il y a cette question qui revient en permanence dans le livre. Pourquoi moi et pas eux ?
Je me suis toujours posé la question, pourquoi un de mes meilleurs amis qui était à mes côtés, pourquoi lui est mort et moi je suis là, pourquoi ? Je me suis posé souvent, je ne sais pas.
Est-ce qu'on apprend à vivre avec cette question infernale ?
Oui, je crois qu'on apprend à vivre. C'est compliqué, mais je dis, le soir du 10 juin, le matin j'étais un adolescent, et le soir du 10 juin, j'étais devenu un homme.
Qui a eu l'idée de ce livre en commun ?
À un moment, on savait qu'on voulait faire quelque chose ensemble et on se disait que ce serait quand même très bien qu'on fasse quelque chose ensemble parce qu'on est très complices et on est complémentaires. Comme l'occasion ne s'était pas présentée, ça ne s'est pas fait. Et donc, quand on est venu nous le proposer, je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté parce qu'on le regretterait. Et donc, on a saisi l'occasion assez rapidement. Voilà, je me suis dit que j'allais le convaincre et j'ai pas eu beaucoup de mal à le convaincre. Il était très content qu'on puisse faire quelque chose tous les deux.
Et le titre de ce livre, c'est « Le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane » coécrit avec Mélissa Boufigi et c'est aux éditions HarperCollins. Un grand merci à vous deux, Robert Ebras et Agathe Ebras. Merci à vous deux de vous être confiés ce matin au micro d'Europe 1.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la partition du groupe Phoenix. À tout de suite.
Votre partition, Ombline, et en fait le retour du groupe français, Phoenix.
Oui, un retour après 5 ans d'absence qui aurait dû commencer en fanfare samedi dernier par la scène du festival Wheel of Green à Paris. Concert annulé à cause des orages, Phoenix compte bien prendre sa revanche ce soir à Lyon sur la scène du Grand Théâtre Antique des Nuits de Fourvière. Et le groupe en profitera pour présenter en live son nouveau titre, Alpha Zulu.
En attendant ce live à Lyon, on fait machine arrière ce matin. Retour en 2009, quand le son électro Made in France de Phoenix résonne à la télé américaine.
Oui, le destin du groupe prend une toute autre dimension lorsqu'il apparaît dans la mythique émission Saturday Night Live. C'est la consécration pour ses copains du lycée Hoche de Versailles. Versailles où la mecque de la French Touch sur les trottoirs de cette banlieue chic parisienne, on pouvait croiser aussi le duo R, Alex Goffard ou Étienne de Crécy. Phoenix chante en anglais. Et depuis le début, malgré l'insistance de la maison de disques.
Voilà donc Phoenix sur ce plateau télé new-yorkais. C'est une première pour un groupe français.
Cette apparition va être déterminante dans la carrière des musiciens et les Américains vont adorer. D'ailleurs, lors des répétitions, les équipes du show, assistants et techniciens sont impressionnés, totalement séduits par ces petits Frenchies lancés ce jour-là sur les traces des Blues Brothers.
Phoenix se retrouve en effet à la même place sur le plateau que Bruce Springsteen, Nirvana ou encore Simon & Garfunkel.
Oui, même s'il ne semble pas vraiment impressionné, il évite toutefois de s'attarder. Ils évitent de s'attarder sur les photos de ceux qui sont passés par là avant eux pour ne pas se mettre la pression.
Avant le direct, l'ambiance est plutôt détendue dans leur petite loge.
Les quatre de Phoenix gardent bien en tête l'esprit des répétitions du tout premier album United, sorti au commencement du 21e siècle. Il y a eu ensuite les tournées fondatrices en France, mais pas seulement, en Norvège, en Suède, et puis les succès en demi-teinte des deux disques suivants. Toutes ces expériences les ont forgées. Quand vient le direct à la télé, le chanteur Thomas Mars s'installe derrière son micro avec à sa gauche le guitariste Christian Mazalet qui sautille en rythme. Le présentateur est emballé et événement très rare. Comme pour U2, comme pour Coldplay, la production demande à Phoenix de jouer deux morceaux en plus à la fin de l'émission. They say an end can be a start. Feels like a barber, yes, still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror of these spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being or superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, gold is the ground, and the sickle is silent in my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a name can be a star. Feels like a barbarian still alive. I'm losing my balance on the side. Kings avec If I Ever Feel Better. Rendez-vous ce soir au Festival Les Nuits de Fourvière à Lyon. Et notez que le groupe sera en concert à Paris le 29 novembre. Un nouvel album est actuellement en préparation.
Merci beaucoup, Ombline. Vous restez avec nous dans un instant. Votre matinale se poursuit. À tout de suite.
Europe Matin.
Excellent vendredi sur Europe 1. Le petit matin revient lundi à partir de 5h.
Et bon week-end à vous, Ombline. Petite prolongation en ce qui me concerne. Notre ami Dimitri Pavlenko est en route et nous rejoindra à 7h.